la prière et le travail. Alors en fait, il y aurait deux parties dans mon topo. Une première partie, ce serait plutôt action et contemplation. Et pour ça, je vais méditer avec vous un petit peu sur un texte d'évangile célèbre. Nous allons relire Marthe et Marie. Et puis après, ça sera un peu plus précis, un peu plus pratique sur la prière et le travail. Voilà. Chapitre 10, verset 38 à 42. Vous savez à quel est le passage évangile juste avant Marthe et Marie? C'est le bon samaritain. Alors, ça fonctionne un peu comme je crois que Saint-Luc aime bien fonctionner par diptyque. Vous avez deux icônes, là, voilà. Au début de son évangile, il y a Jean-Baptiste et Jésus, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, tout ça. Et du coup, on voit les contrastes et tout ça, des deux. Et alors, juste avant, c'est le bon samaritain, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Alors, du coup, ça aide à situer l'un vis-à-vis de l'autre. Et là, c'est Marthe et Marie, ça aide à situer aussi la prière et, on va dire, la contemplation, l'action. Je trouve ça assez intéressant. Alors, je vais essayer de relever quatre éléments dans ce passage évangile, qui me parlent, j'espère qu'ils vous parleront, à propos de l'action et de la contemplation. Le premier élément, c'est que Marthe s'active pour bien recevoir Jésus, et quelque part, s'il faut un titre, c'est est-ce que je travaille pour Dieu, est-ce que j'œuvre pour Dieu, ou est-ce que je laisse Dieu œuvrer en moi? Qu'est-ce qui travaille dans la question? Est-ce que c'est Dieu ou c'est moi? Et il me semble que c'est quelque chose d'important. Déjà dans l'attitude de Marthe, on voit qu'elle veut faire quelque chose pour Jésus, et elle y met tout son cœur pour faire quelque chose pour Jésus. Il y a quelque temps, il y a un enseignement qui m'avait beaucoup marqué, c'était sur le donner et le recevoir. Clairement, là, Marthe est dans le donner. Elle veut vraiment donner à Jésus le meilleur d'elle-même. Elle est canonisée quand même, donc c'est pas non plus. Mais elle veut vraiment donner, mais elle n'est pas du tout dans le recevoir. Et dans notre vie, c'est comme la respiration, il faut qu'il y ait les deux. Sinon, on s'épuise au bout d'un moment. Si on veut toujours donner, mais sans recevoir, on s'épuise. Et alors, ce qu'il y a, c'est que dans quelquefois, c'est difficile de recevoir. Je vous raconte un épisode. Je ne suis pas spécialement fier de cet épisode, mais bon, c'est comme ça. C'était une fois, donc, on avait pour envie de Noël, souvent. Soit on se prévoit des cadeaux mutuellement en communauté et tout ça, et puis là, c'était passé un peu à la trappe, et du coup j'avais suggéré, peut-être naïvement, de donner du temps à un frère, peut-être de penser qu'est-ce que je pourrais donner comme temps à un frère plutôt dans ce sens d'être disponible pour quelquefois penser ce qu'on a de plus précieux, Et puis, mais j'avais pas du tout réfléchi que donner, ça voulait dire que je recevrais aussi du temps. Et d'un seul coup, j'ai pris conscience. Oh, si c'est tel frère, je sais pas très bien comment il pourra m'aider, ou je sais pas, tel frère, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça m'a aidé à prendre conscience. C'était un peu une claque quand même. Peut-être que j'étais vraiment dans le donner vis-à-vis de ce frère, mais j'étais pas prêt à recevoir. Alors selon notre personnalité, tout ça, on est plutôt dans le donner ou dans le recevoir, mais c'est pas bon d'être que dans le donner et puis d'être pas capable de recevoir. L'exemple que je prends souvent avec les couples, alors ça marche toujours, bon, c'est tout bête, hein. C'est monsieur qui veut aider madame à faire un peu de ménage, ce jour-là il fait beau, tout ça, alors il dépoussière, toc, toc. Il fait le tour des choses. Voilà. Et puis madame qui arrive. Mais non, je t'ai déjà dit 100 fois. Tu enlèves les choses. Toc, toc. Et tu remets les choses. Comme ça, au moins, c'est propre. Voilà. L'histoire, c'est que quand elle lui a dit 3 fois, bon, il peut peut-être apprendre. Le ménage, mais bon, ça, c'est une autre question. Mais si souvent on met aussi des filtres, on accepte de recevoir mais à la façon dont on veut être aidé, mais que l'autre nous donne à sa façon à lui, on a bien du mal. Est-ce que j'accepte que l'autre me donne à sa façon à lui? Est-ce que j'accepte, en l'occurrence pour Marthe, que Dieu me donne de la manière dont il veut me donner, qui n'est pas forcément ce que je voulais, ou je ne sais pas, mais est-ce que les cadeaux, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que j'accepte que Dieu me donne vraiment? Alors c'est un peu le premier élément que je voulais relever dans cette affaire de Marthe et Marie, et de l'action et de la contemplation. Est-ce que je suis toujours, et j'essaie toujours de faire des choses pour Dieu, ou est-ce que j'accepte que Dieu fasse des choses pour moi? Quelque part, ça suppose d'être... En théorie, oui, bien sûr. Quand je lui demande quelque chose, je serais bien content qu'il m'exauce, et voilà. En théorie, oui, mais à sa manière à lui, et qui n'est pas forcément comme j'ai prévu, et tout ça, voilà. D'ailleurs, alors je l'ai un tout petit peu évoqué hier pour la prière des complis, ou voilà. Mais c'est vrai, notamment pour le dimanche, qui est le jour du Seigneur, donc on l'a hérité en quelque sorte du sabbat des Juifs, d'une certaine façon, où justement pendant 6 jours tu travailles, le 7e jour, voilà, tu arrêtes ton ouvrage. Mais derrière, c'est aussi cette idée de, voilà, il faut t'activer aussi, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, mais tu dois savoir mettre un terme à ton travail et remettre tout entre les mains de Dieu, parce que c'est lui qui pourra accomplir quelque part ton travail, c'est pas... Mais quelquefois, quand on n'arrive pas à arrêter son travail, c'est peut-être que on ne croit pas assez que Dieu peut agir. On croit qu'il n'y a que nous qui sommes capables de faire quelque chose, mais est-ce qu'on croit profondément que dans beaucoup de situations, même très matérielles, est-ce qu'on croit que Dieu peut agir? Est-ce que je le crois profondément? Ou est-ce que je fais tout comme si de toute façon il ferait rien? De ce point de vue-là, ce qui me vient à l'esprit, c'est Marc Robin. Quelquefois, il y a des gens qui venaient, des chefs d'entreprise, des architectes, quelquefois, qui venaient la trouver. Et donc, ils avaient travaillé leurs questions, tout ça. Et innocemment, elle, qui n'était pas technicienne, tout ça, elle leur donnait l'idée qui... Ah ben oui, j'avais pas pensé. Du coup, alors après, elle faisait pas les calculs, tout ça. C'était. Mais voilà, elle avait une intuition qui... Alors, qui renouvelait complètement ce qu'ils avaient pu envisager ou tout ça, mais ça, elle ne recevait pas de sa science à elle. Et je crois que, y compris dans notre travail, le bon Dieu peut intervenir. Mais encore faut-il qu'on lui laisse la possibilité. Voilà. Alors donc, c'est plus le donner et le recevoir. Est-ce que j'œuvre pour Dieu ou est-ce que je laisse la place à Dieu pour qu'il puisse œuvrer dans ma vie? Premier élément. Je trouve bien, hein. Deuxième élément, c'est... donc, on voit... On imagine assez facilement la scène, enfin, peut-être pas vous, hein, je ne sais pas. Marie est assise devant Jésus, et puis Marthe, je ne sais pas si elle fait la cuisine, elle met la table, ou enfin, je ne suis pas très doué dans... Je ne sais pas comment exactement ça se passait, mais elle passe une fois, et puis... s'activer un peu, quoi. Bon, elle passe deux fois, et puis petit à petit, la pression monte un peu. Puis au bout d'un moment, ça finit par exploser, mais entre-temps, ce petit jeu entre Marthe et Marie, c'est... On a en nous peut-être Marthe et Marie en nous. Et quelque part, il y a un côté qui nous culpabilise quand on prend du temps gratuit pour Dieu. On dit, mais il y a tellement de choses à faire, tout ça... Alors, il y a un peu cette lutte entre Marthe et Marie, elle est peut-être, on a une petite Marthe, une petite Marie en nous, mais même pour nous qui sommes dans une communauté, théoriquement la prière c'est quand même une priorité, mais quelquefois on a mauvaise conscience au milieu de la journée à prendre un petit temps avec Jésus. On se culpabilise, mais on a des culpabilités qui ne sont pas justes. Mais là, c'est un peu je trouve, entre Marthe et Marie. Si quelque part ce qui est beau en un sens, c'est que Marie finalement elle se laisse pas entamer par parce qu'elle devait le sentir que sa sœur, bon, elle faisait des gestes ou je sais pas, des bruits. Bon, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais quelquefois, avant de le faire comprendre par des paroles, il y a de... on le fait comprendre d'autres façons, voilà. Et Marie se laisse pas culpabiliser ou se dit, mais non, c'est... on va pas toutes les deux abandonner Jésus, là, qui est là pour... c'est stupide. Et elle se laisse pas culpabiliser. Et je trouve que c'est une autre chose qui me paraît intéressante dans ce passage d'évangile. Troisième élément, dans ce passage d'évangile, alors ce que je vous dis, ça se recoupe un petit peu, mais c'est plus par rapport aux angoisses. Et... on sent que Marthe est un peu angoissée de ne pas y arriver. Mais pour nous aussi, on a du mal à gérer nos angoisses. Souvent, c'est, quand on est agressif, c'est qu'on a un peu de mal à gérer, on ne sait pas très bien comment... voilà. Et du coup, ça sort comme ça sort, et pas forcément très bien. Mais on sent aussi ça en Marthe. Mais lié à cette question d'angoisse, c'est aussi qu'elle se met peut-être une exigence que Dieu n'attend pas d'elle. Dieu lui demandait peut-être pas d'en faire autant, mais peut-être d'être un peu plus disponible. Alors, pour nous aussi, ça peut être, c'est un bel exemple, je trouve, d'essayer de voir est-ce que, à un certain moment, je perds pas un peu le contrôle comme Marthe. Hein, quelque part, je vois tellement l'objectif à atteindre et tout ça que ou plus exactement les choses à faire pour atteindre l'objectif, que j'en perds un peu de vue l'objectif final, c'était de bien accueillir Jésus, je pense. Mais quelque part, elle est concentrée sur les moyens, elle oublie un peu la finalité. Et du coup, elle est angoissée par les moyens, et du coup, elle perd... Mais il me semble que ça peut être quelquefois un peu notre cas, ou ça peut être mon cas, en tout cas, de quelquefois de voir trop les... et perdre de vue le... perdre de vue la finalité et le... voilà, dans la machine s'emballe. Hein. Et du coup, les personnes passent au deuxième plan à ce moment-là. C'est plutôt les choses à faire qui passent au premier plan et les personnes, voilà, dégagées. Parce que je dois passer avec mon 35 tonnes. Et voilà, les personnes... alors ça, c'est vrai, je sais pas... Alors, si vous étiez des familles avec beaucoup d'enfants, tout ça, quelquefois, c'est ça aussi dans la vie familiale. Bon, c'est pas toujours simple, il y a beaucoup de choses à gérer, tout ça, mais quelquefois, on fait beaucoup de choses, et puis finalement, les personnes, on perd de vue l'attention aux personnes. C'est un petit peu ça, mais parce qu'on est pris par les moyens, et voilà. Alors, Jésus, il l'arrête quand même un peu brutalement. Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses, et pourtant il en faut peu, une seule même. Il y a le beaucoup et le peu. Lié à cette histoire d'angoisse, c'est peut-être revenir à une certaine sobriété. C'est un mot sur lequel j'essaie de revenir un petit peu plus loin. Sur une certaine sobriété dans les moyens, dans les pas se laisser, pas sur donner trop d'importance aux moyens. Je reviens un petit peu au point précédent, là, à ce petit conflit entre Marthe et Marie. On retrouve ce même conflit, d'une certaine façon, entre Pierre et Jean après la résurrection. Ce qui est important pour nous, c'est de suivre ce qui nous paraît être juste intérieurement. Marie ne s'est pas laissée déconcerter par Marthe, mais après la résurrection, vous vous rappelez de Pierre et Jean. Jésus, c'est paix mes brebis, tout ça, voilà, et puis un autre te mettra ta ceinture et te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Voilà, c'est Saint-Pierre va être crucifié. Et alors, il dit ça à Saint-Pierre, donc il dit alors entre Jésus et Saint-Pierre, et puis il voit Jean, et lui, que lui adviendra-t-il? Que t'importe, toi, suis-moi. Quelque part, on a notre chemin personnel vis-à-vis de Jésus, mais quelquefois, on louche à côté et on voudrait que tout le monde fasse comme nous. Voilà, ramener. C'est un peu ça entre Marthe et Marie aussi, le fait de ramener à sa manière de voir. Bon. Quatrième point. Quatrième point, c'est justement la conclusion du passage, c'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Alors pourquoi elle ne lui sera pas enlevée? C'est parce que la contemplation, c'est ce qu'on fera au ciel, tandis que l'action, on a... voilà. Alors, quelque part, justement, il y a les moyens, il y a une finalité intermédiaire, et puis il y a la finalité ultime, qui est vraiment cette communion avec Dieu et le ciel. Et justement, Marie est plus ajustée à ce moment-là, en tout cas dans son attitude, parce qu'elle perd pas de vue la finalité ultime qui finalement est la communion avec Dieu. La perspective du royaume, ça change quand même nos choix concrets de l'aujourd'hui. Selon qu'on croit qu'il y a un au-delà, ou selon qu'on croit que se termine le jour de notre mort, c'est quand même pas la même chose, parce que c'est pas la même chose pour aujourd'hui. Pas seulement pour après, bien sûr, mais aussi pour aujourd'hui. Parce que du coup, on ne prend pas les choix exactement de la même façon. Peut-être une image pour reprendre un petit peu ça, c'est l'action et la contemplation. Ça peut être les racines de l'arbre et le tronc, les feuilles et les fruits de l'arbre. Les racines, la contemplation, c'est vraiment les racines qui nous permettent... alors, je vais retenir trois fonctions des racines, mais il y a des gens plus compétents que moi en la matière, je pense. Mais déjà, ça permet à l'arbre de se nourrir. Hein, s'il n'a pas de racines, il doit puiser dans le sol. Voilà. Et la prière, ça nous permet de nous nourrir pour grandir, pour porter du fruit. Voilà, il y a des grands saints, Saint Vincent de Paul, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il prenait toujours plusieurs heures de prière le matin, mais après c'était pas un inactif, hein, Saint Vincent de Paul, c'est clair, mais voilà. Autre fonction aussi des racines, je pense, c'est pour hydrater, pour avoir, surtout à la période où vont sortir les feuilles. Alors, c'est impressionnant ce qu'un arbre peut puiser comme eau, mais aussi pendant tout l'été, pour pas se dessécher tout ça, il a besoin de ça. Et nous, quelquefois, on peut se dessécher un peu dans notre vie spirituelle, tout ça, s'il n'y a pas la prière. On a pu grandir, déjà, mais aussi pour résister au vent, au soleil, tout ça, qui dessèche, hein, et quand on est dans le travail, tout ça, avec beaucoup de choses, il y a des choses qui sont assez desséchantes et on a besoin de ça pour... voilà. Et troisième fonction des racines, c'est pour tenir debout, hein, pour que l'arbre tienne debout, même quand il y a des tempêtes, quand il y a des... voilà. Ben, l'arbre qui tient debout. Et nous aussi, quand il y a des vents contraires, quand il y a des événements assez... qui secouent beaucoup... Bon, on a besoin d'avoir des racines d'autant plus profondes. Alors, les racines, c'est pas ce qu'on voit, hein, dans un arbre. C'est invisible. La prière, c'est pas forcément ce qui... C'est un côté assez caché, hein. Et ça demande beaucoup de foi, parce qu'on la mesure pas immédiatement, l'utilité de la prière, l'efficacité de la prière, quelquefois. On prie, on ne sent rien, on essaie de lutter contre les distractions, et puis voilà. Ça ne revient pas notre prière, on a l'impression que ça se limite un peu à ça, mais c'est important, même si on n'en voit pas toujours directement l'effet. Il y a un côté assez austère, hein, des racines, qui sont dans la terre, humide, tout ça, voilà, c'est ça. Mais la prière, c'est quelquefois, c'est un côté assez austère, hein, parce que dans la prière émergent beaucoup de choses de notre humanité, et il n'y a pas que les belles choses de notre humanité qui émergent dans la prière, mais aussi tout un certain nombre de choses dont on n'est pas très fier et tout ça qui émergent de différentes façons dans la prière. Bref, dans ce passage évangile, donc c'est ce qui est mis en valeur, c'est beaucoup la primauté de la contemplation sur l'action. Tous les pères de l'Église ont lu ce passage d'évangile comme ça, en voyant vraiment cette primauté de l'action. Ora et labora, mais c'est pas labora et ora, c'est ora et labora. Alors, je vais peut-être récapituler quelques éléments justement qui indiquent l'importance de la contemplation par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à notre travail. Bon. Déjà, c'est un lieu où on peut prendre un peu de recul. Pourquoi cette primauté? Ben, ça nous permet de prendre du recul, de ne pas être le nez dans le guidon, mais de... Voilà. C'est un lieu où il nous est donné de pouvoir mieux mettre les priorités, les bonnes priorités. Je vous lis une phrase de Paul VI. L'effort de fixer en Dieu le regard et le cœur, que nous appelons contemplation, devient l'acte le plus élevé et le plus plein de l'esprit. L'acte qui aujourd'hui encore peut et doit hiérarchiser l'immense pyramide de l'activité humaine. Donc mettre une hiérarchie. La contemplation qui nous aide avant de se lancer dans l'action, de voir quels sont les moyens et puis tout, ordonner les choses. Hein. Une vie désordonnée, c'est pas forcément une vie où on fait n'importe quoi dans le sens moral. C'est une vie où les choses ne sont pas... il y a des choses qui ne sont pas à leur place. La prière, c'est aussi un lieu, je pense, qui nous permet d'avoir plus de liberté vis-à-vis des personnes. Hein, où on acquiert... on peut être soi-même. C'est pas toujours facile quand on a des pressions et tout ça. Qu'est-ce que je veux d'abord? Avant de défendre... Qu'est-ce que moi je veux? Mais ça, on a besoin d'un temps d'intériorité pour savoir ce qu'on veut déjà. Si on ne sait déjà pas ce qu'on veut, on sera assez facilement manipulable. Hein. Mais si profondément on sent que c'est dans cette direction qu'il faut aller, on est moins facilement manipulable. La prière aussi qui nous aide à laisser le travail à sa place, bon, ça rejoint la question des priorités, tout ça, mais nul ne peut servir deux maîtres. Alors, est-ce que c'est Dieu ou c'est mon travail ? Et de fait, quelquefois, on sacrifie tout au travail. Et voilà. Alors finalement, il prend peut-être la place de Dieu. Mais la prière, ça permet souvent de... Alors, on fait comme on peut aussi dans la situation où on est. Hein. Après, il faut, avec prudence, voir ce qui est possible. Et voilà. La prudence... Je ne sais plus, j'étais un peu distrait hier, hein, je vous avoue, je confessais humblement, pendant l'enseignement de Père Laurent Marie. Je ne sais plus s'il vous a beaucoup parlé de la prudence. Vous étiez peut-être aussi distrait. La prudence, grosso modo, très schématiquement, vous avez des objectifs très clairs. Après, il y a la réalité aussi. Et puis après, c'est proportionné, c'est ce qui nous permet d'atteindre les objectifs, mais en tenant compte de la réalité bien concrète. Hein, c'est à l'envers d'une idéologie où on plaquerait artificiellement quelque chose. Non, on prend à la fois en compte vraiment les objectifs, on pourrait dire, et puis aussi la réalité, vraiment dans ce qu'elle a de plus contingent, de plus... Donc, ça fait le lien entre les deux, très brièvement. Le travail, la prière, c'est aussi le lieu où on trouve la force, je crois, pour simplement pour être aimable, déjà au travail, Enfin, il y en a qui le sont plus facilement naturellement, et puis d'autres pour qui c'est plus une lutte, et puis, ou de faire des efforts, ou d'accepter de passer pour le pigeon parce qu'on rend service alors que tout le monde s'est défilé, ou voilà. Mais la prière, c'est un lieu où on trouve la force aussi pour aimer, même quand c'est difficile, et plus profondément, c'est le lieu où on nourrit notre vie théologale. Hein. Vous connaissez les trois vertus théologales ? La foi, l'espérance, la charité. Hein. Vous le saviez. Mais la foi, l'espérance et la charité. Théologale, c'est cette attitude habituelle dans notre relation avec Dieu. Hein, donc, je ne vais pas développer sur les vertus théologales, mais le lieu où notre foi peut grandir, où notre espérance peut grandir, où notre charité peut grandir, c'est vraiment dans la prière. Si on va un petit peu plus loin, c'est aussi le lieu où on permet à la grâce d'agir en nous, la contemplation. Parce que avoir un regard de foi sur les événements, les personnes, tout ça, si on n'a pas pris de temps de prière, c'est un peu compliqué. Mais quelque part, pour dire les choses d'une autre façon, la prière, c'est un lieu où on essaie d'adopter le regard de Dieu sur les gens qui sont avec nous, sur notre travail, essayer d'avoir le point de vue de Dieu, de voir comment Dieu voit les choses. Voir les choses non pas simplement d'un point de vue naturel de Monsieur Lambda, mais d'un point de vue chrétien. Alors, c'est pour ça qu'il y a une certaine primauté de la contemplation sur l'action, parce qu'on a besoin vraiment de ses racines pour pouvoir pour pouvoir bien se situer vis-à-vis de la réalité. Et ça demande vraiment du courage. Une citation de Saint Anselme que j'aime bien. Ça demande du courage hein, pour faire passer la contemplation avant l'action. Ça demande de la foi déjà, d'y croire. Parce que prendre un temps gratuit de prière, si on croit que c'est inutile, ça ne durera pas longtemps. Hein. Mais il faut du courage. Voilà ce que dit Saint Anselme. Allons, courage, pauvre homme. Fuis un peu tes occupations. Dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées. Rejette maintenant tes lourds soucis et laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu et repose-toi un peu en lui. Entre dans la chambre de ton esprit, bannissant tout, sauf Dieu, ou ce qui peut t'aider à le chercher. Ferme la porte et mets-toi à sa recherche. À présent, parle, mon cœur. Ouvre-toi tout entier et dis à Dieu, je cherche ton visage. C'est ton visage que je cherche. J'aime bien cette... Voilà. Ce fait, il faut avoir du courage pour entrer dans la contemplation. Ce n'est pas spontané. Hein. C'était la première partie. Deuxième partie. C'est un peu rapide, hein, mais voilà. Deuxième partie, c'est plus concret. Je vais rentrer un peu plus dans le concret maintenant. Même si c'est, j'espère, pas trop abstrait, mais... Voilà. Donc la prière, qu'est-ce que c'est que le cœur de la prière ? C'est l'union à Dieu, on pourrait dire. Hein, c'est le cœur de la prière, c'est d'être uni à Dieu. Alors, on a besoin de temps plus explicitement dédié à la prière. Hein, c'est comme un couple qui dirait qu'il s'aime profondément, mais qui ne passe jamais de temps ensemble. Je dirais, à mon avis, peut-être un petit problème. Parce que si, alors bien sûr, ils n'ont pas besoin d'être collés toute la journée ensemble, mais il y a besoin de moments de qualité à prendre ensemble. Et la prière, c'est vraiment un moment de qualité avec Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être uni à Dieu au plein milieu de notre travail, en conduisant la voiture, ou etc. Bien sûr. Mais ça appelle des temps explicites où vraiment on est là que pour l'autre. C'est. Non, il y a des attitudes plus masculines que féminines, mais quelquefois, alors avec les couples, c'est monsieur est en train d'écouter madame, il continue à tapoter sur son ordinateur, tout ça, mais elle n'est pas du tout satisfaite. Je ne sais pas pourquoi, mais... parce qu'elle a l'impression de ne pas être écoutée s'il ne lâche pas tout pour être présent. Mais le bon Dieu, c'est pas une femme, mais il aime bien qu'on lâche tout aussi pour être disponible pour lui, qu'on fasse pas deux choses en même temps. C'est l'histoire du jésuite, je sais plus. Est-ce qu'on peut fumer en priant? Non, mais tu peux prier en fumant. Mais quelque part, bien, il y a besoin de temps explicite après tous les autres moments, bien sûr, de les faire dans un esprit de prière, bien sûr. Mais il y a besoin de moments explicites pour Dieu. Voilà. Alors, mais pour revenir au cœur de la prière, c'est finalement être uni à Dieu. Et du coup, après, ça prend des formes diverses et variées. Alors, là, il y aura encore trois points dans ce... Vous suivez, on est dans le grand B, on va l'appeler comme ça, et il y a trois points. J'aime bien les chiffres, c'est un vieux reste. Voilà. C'est comment notre prière est présente dans notre vie. C'est plutôt justement sur ces temps explicites de prière. Alors, je vais un peu énumérer, ça sera un peu une énumération, mais on retravaillera tout ça cet après-midi. Je vais peut-être commencer par le repos dominical et le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Voilà, un temps vraiment pour Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être sur son prie-Dieu toute la journée du dimanche, mais de savoir dégager du temps pour Dieu. Voilà, le dimanche et au cœur du dimanche, la messe dominicale, bien sûr. Après, il y a la prière le matin, le soir, il y a la lecture de la parole de Dieu. Quelquefois, on a l'impression que Dieu est silencieux, pourtant. Il a pas mal parlé. Donc, il n'est pas si silencieux que ça. Bon, après, il y a le chapelet, il y a l'oraison, il y a... le bénédicité avant les repas. Il y a plein de moments. Alors, dans certaines traditions, il y a beaucoup plus de petits moments de prière dans la journée. Après, c'est à vous de trouver ce qui vous convient, ce qui vous va bien. Je sais pas, en démarrant votre voiture, vous pouvez faire une petite prière. Alors, il y a besoin de moments un peu plus longs, mais aussi au long de notre journée, d'avoir des petits moments... des petites phrases, voilà, ou quand on voit quelque chose de beau, ou ça peut être, on va avoir une réunion un peu compliquée, voilà, on prend. Ça n'a pas besoin forcément d'être très long, mais il y a besoin de moments spécifiquement dédiés à ça, et puis après des petits moments qui jalonnent un peu notre journée, comme les grains de chapelet, là, un peu tout au long de la journée. Et puis il y a des moments. Ce que vous avez vécu ce week-end, finalement, de prendre des temps de retraite un peu plus longs. Il y a besoin d'une diversité de moments. Après, voyez ce qui pour vous est, comment vous pouvez l'inscrire concrètement dans votre vie. Bernard nous disait tout à l'heure, bon, c'était 7 heures d'adoration nocturne chaque mois. Mais d'avoir quelque chose qui vous convienne, ce qui convient à l'un ne convient pas forcément exactement à l'autre, mais c'est bien d'avoir quelques rendez-vous. Mes parents, par exemple, c'est une autre génération, mais ça fait quelques générations par rapport à vous, mais eux, faire une retraite, à la limite une journée, mais en revanche, faire un pèlerinage, ça, ils le font très volontiers. Voilà, ça leur convient. Mais rester assis comme ça sur une chaise, c'est... Bon, avec l'âge, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais voilà. Chacun peut trouver aussi ce qui lui convient plus précisément. Il y en a qui aiment bien marcher dans la campagne, et puis voilà, ça les aide. D'autres qui préfèrent être dans un petit oratoire, voilà, bien chaud, tout ça. Voilà. Donc, et les choses peuvent évoluer au fil de notre vie aussi. C'est pas de savoir, mais de savoir repérer. Alors ça, c'était un des éléments de ce que disait, ou plus exactement de ce que j'ai vu sur le site là de Nicolas Janson, Par rapport au travail, d'abord observer, avant de trouver des trucs, c'est voir aussi concrètement, moi, qu'est-ce qui me va, et qu'est-ce qui, dans quel moment, finalement, dans quelle situation je suis peut-être... j'entre plus facilement en intimité avec Dieu. Oui, j'y reviendrai un peu plus tard à ça. Deuxième point, donc ça c'était la prière présente dans notre vie, de travail entre autres. Maintenant, comment notre travail est présent dans notre prière? Ça c'est notre... Alors je résiste pas à l'envie de vous faire un petit couplet sur Notre Père. D'ailleurs, le Notre Père vient juste après le récit de Marthe et Marie que nous avons entendu. Quelle est la question des disciples à Jésus? Alors, vous me donnerez la bonne version. Seigneur, apprends-nous une prière comme Jean en a appris une à ses disciples. Première solution. Deuxième solution. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Apprends-nous une prière ou apprends-nous à prier? Qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? À prier. Et alors, quelle est la réponse de Jésus? Il enseigne une prière. Alors, à travers ça, c'est tout bête, mais Jésus n'a pas d'abord appris une prière, mais à travers cette prière, il apprend à prier. Et ça, c'est le modèle par excellence de toute prière chrétienne, Notre Père. Si on veut savoir ce que c'est que la prière chrétienne, toc, on lit Notre Père, et puis ça nous donne des éléments. Il y a saint Thomas d'Aquin qui dit une chose très très intéressante, je trouve. Il dit, par cette prière, le Seigneur forme notre affectivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans Notre Père, il y a vraiment un ordre dans les choses. On ne dit pas « délivre-nous du mal tout de suite » parce qu'on est angoissé, tout ça. Non, ce n'est pas ça qui vient en premier. D'abord, on se tourne vers Dieu. On se descend de soi-même. Hein. Je ne sais plus, c'est peut-être le Père Manarange qui dit « la prière, ce n'est pas se concentrer, la prière, c'est se décentrer, la prière chrétienne ». Et la première chose, toute la première partie du Notre Père, c'est tu, et la deuxième partie, c'est nous. Hein? On voit que le premier, il y a deux grandes parties, hein? D'ailleurs, qu'on retrouve plus ou moins dans le Je vous salue Marie, hein, de façon un peu analogue, mais d'abord, on est tourné vers Dieu, et je pense que comment notre travail est présent dans notre prière, la première chose, c'est peut-être de se décentrer de son travail. Avant de tout de suite attaquer, c'est peut-être de prendre un petit peu de, savoir rencontrer Dieu. Sinon, on est toujours en train de cogiter sur les problèmes de notre travail ou les joies du travail, bien sûr. Mais du coup, le premier pas, c'est un pas de décentrement, on pourrait dire. Alors, du coup, si vous avez un peu à l'esprit le schéma de Notre Père, c'est, et d'entrée de jeu, revoir la finalité de notre travail, finalement. Et puis après, bien sûr, on demande aussi à Dieu beaucoup de grâce pour notre travail et tout ça. Alors, c'est le lieu où on peut confier les personnes, hein, dans notre prière, les personnes avec qui on a des contacts dans notre travail, que ce soit les collègues, les supérieurs, ou ceux dont on a la charge, ou les clients, ou les fournisseurs, ou je ne sais pas qui. Ça peut être aussi de confier les projets qu'on a, de confier les difficultés. Alors après, dans notre prière, notre travail peut venir de bien des façons. Ça peut être de confier nos faiblesses aussi, parce qu'on sent dans certaines choses dont on expérimente douloureusement nos limites. Alors notre travail peut être vraiment présent dans notre prière, mais Je pense que c'est important dans un premier temps, il y a un certain effort à faire pour se décentrer. L'image qui me vient à l'esprit, c'est, je prêche plus souvent pour des familles, pour les pleines familles, mais c'est le monsieur qui rentre chez lui le soir. Il a eu plein de soucis dans le travail, voilà. Ce qui n'arrive jamais à Bernard, je pense. Et puis il arrive, les enfants qui lui sautent au cou, voilà. Bon, à 27 ans, peut-être moins. Mais il y a un gros effort de décentrement de soi quand on rentre du travail et qu'il y a les enfants qui arrivent, eux, c'est pas leur souci que vous ayez des problèmes au travail ou tout ça, ils vous sautent dessus et puis voilà. Mais ça demande vraiment, alors ils poussent les parents dans leur retranchement, mais ça durera pas forcément très longtemps, mais ce moment où on arrive d'avoir cette capacité, mais ça demande un effort, je pense, pour se décentrer, d'être disponible à ses enfants. Après, ils iront jouer, tout ça, mais si au point de... Non, laissez-moi la paix, la journée était... voilà, alors la soirée risque de mal se passer. Il y a un investissement, vous sentez, à faire pour ce petit moment de... Mais où on se trouve en face des enfants. Mais je pense que c'est un peu la même chose quand on arrive dans la prière. Il y a un certain... Il faut prendre sur soi pour une part, pour dire, mais non, je me tourne vers toi dans la louange, ou voilà. Après, bien sûr, je te présenterai tout, mais on a un petit mouvement intérieur à faire pour se décentrer de soi, qui nous coûte toujours. Je pense que c'est pas simple de se décentrer de soi-même, si vous gardez ce parallèle, la soirée, il n'aura peut-être pas pris beaucoup de temps avec ses enfants. Une fois qu'ils l'ont embrassé, ils iront faire autre chose. Et puis, mais s'il ne le fait pas, ça se passera mal. Et quelque part dans notre prière, peut-être le premier moment de la prière, le père Caffarel insistait beaucoup sur le démarrage de la prière. Il dit, mais d'orienter, vous ne venez pas là à la prière pour vous, vous venez pour Dieu. Et ce premier moment de la prière Alors, encore une fois, votre travail, après, vous pouvez tout présenter à Dieu, bien sûr, et de différentes façons. Enfin. Et j'en viens au troisième point de Grand B. Ça va ce... Alors, c'est quelque chose très pratique, quelques éléments très pratiques qui favorisent la prière ou qui aident la prière. Alors là, je vais quitter le numéro 3. Ça va être 4 petits points. Mais il y a des tiroirs encore dans chaque point. Alors, premier tiroir, une certaine sobriété de vie. Sobriété, alors, vous pouvez prendre un peu d'alcool, c'est pas ça que je veux dire, enfin, mais là aussi avec mesure. Mais je pense que la vie de prière aussi s'accorde mal avec une vie où on... où il n'y a pas une certaine mesure. Si tout était dans la démesure dans notre vie, on aura du mal à vraiment rentrer dans la vie de prière. Alors ça ne veut pas dire de ne pas se réjouir, de ne pas avoir de distractions, tout ça, mais bien sûr, vous pouvez regarder un film, vous pouvez... Il ne s'agit pas de rester, voilà. Mais en même temps, je pense que si on veut avancer plus profondément dans notre vie de prière, on a besoin d'une certaine sobriété de vie et de... Voilà, je sais pas comment vous dire. Que ce soit au niveau des loisirs, que ce soit au niveau du sommeil. Alors, sobriété du sommeil, ça veut dire de dormir suffisamment, autant qu'on peut. Ça peut être des tas de choses. Par rapport aux médias, tout ça, on a des téléphones, tout ça, mais peut-être qu'on peut aussi... cadrer un petit peu les choses pour ne pas être esclave de nos mails, tout ça. Si peu qu'on est devant, on rentre toc, on regarde tous nos mails, tout ça, bon, ça, c'est peut-être à faire, mais quelquefois on a du mal à mettre des limites. Et je pense qu'on a besoin d'une certaine mesure, de savoir mettre un peu des limites pour qu'il y ait encore de la place. Hein. Si on commence à brancher la télé et qu'on y a jusqu'à 11h du soir, la prière, on aura du mal après parce qu'on sera épuisé. Voilà. Ça, c'était premier grand tiroir. Deuxième grand tiroir, c'est nourrir notre vie intérieure. Chez le père Caffarel, à Troussure, c'était très évocateur au niveau de la disposition des lieux. Pour aller à la chapelle, il fallait traverser une pièce où il y avait des bibles et des vocabulaires de théologie biblique. Et le père Caffarel, qui avait une âme un peu monastique d'un certain point de vue, ça c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans les monastères contemplatifs, la méditation de la parole de Dieu, de pouvoir... Si on nourrit pas notre intelligence, notre alors d'abord la parole de Dieu, mais tel ou tel livre de spiritualité, ou de, voilà, si on se nourrit pas, mais on finit par tourner en rond dans la prière. On a besoin aussi de se nourrir. Ou le catéchisme de l'Église catholique, ou le compendium, ou voilà. Je ne vais pas être plus long là-dessus, mais on pourra approfondir si vous voulez après. Quatrième grand tiroir, c'est repérer les difficultés. Là encore, je me réfère un petit peu à ce que disait ou à ce que écrit Nicolas là sur le site. C'est de repérer qu'est-ce qui me fait difficulté pour entrer dans la prière. L'évangile qui me vient à l'esprit là, c'est celui du semeur, hein, avec les quatre types de terrain. Il y a d'abord le terrain, c'est plus la superficialité sur le bord du chemin, tout ça. Après, un autre terrain, c'est plutôt sitôt qu'il y a un peu de souffrance qui survient, tout ça, voilà, on abandonne parce que c'est plus la question de la souffrance et voilà, les peurs et tout ça qu'on peut avoir. Un autre terrain où ça ne marche pas bien, c'est quand c'est étouffé par les soucis, par sur plein d'autres choses qui supplantent quelque part la vie spirituelle, parce qu'on a beaucoup des centres d'intérêt plus forts que Dieu en nous. Bon. Alors de repérer quelquefois les mauvaises herbes en nous, les mauvais terrains, voilà, ça peut... Et quatrième et dernier... tiroir, ça c'est aussi des choses très très concrètes là qui prennent en compte vraiment notre individualité. Il y a des moments où on est disponible pour, on est plus disponible pour prier que d'autres, c'est bien de les repérer. Je pense à un monsieur, il a repéré, alors maintenant il fait oraison le soir, il allume une bougie, il est assis dans son lit, il n'est pas allongé parce que sinon le sommeil vient trop vite. Et là, il a une bougie devant son icône et c'est le climat qui l'aide à entrer dans la prière. Il peut, et qui l'aide à entrer vraiment dans une nuit où il passe avec Dieu d'une certaine façon. Mais bon, pour un autre, non. Il arrive dans son lit, il est raide mort, donc il dort, et puis voilà. Et il est plus disponible le matin, voilà. Mais de repérer, peut-être qu'on est plus, vous êtes peut-être plus à l'aise de prier dans une église gothique que dans une pièce carrée, aseptisée. Bon, après, je sais pas, mais d'avoir un coin prière, ou je sais pas, ou des. On parlait aussi d'avoir des petites icônes, des voilà, ce qui vous va à vous. Hein, mais on est en chair en os, on a besoin de choses qui nous aident, des signes sensibles. Alors dans notre coin prière, mais ça peut être, alors Bernard nous disait dans sa voiture, ça doit être un oratoire. Mais peut-être, t'y passes peut-être plus de temps que chez toi, finalement, dans ta voiture, frère. Alors, du coup, peut-être le lieu où, mais on a besoin de signes sensibles qui nous rappellent la présence de Dieu. Alors, ça peut être visuel, ça peut être auditif. Hein. Votre téléphone qui sonne, c'est l'Ave Maria, ou je sais pas. je ne sais pas, après on a des tas de trucs techniques qui peuvent nous aider. Bon, ça ne remplace pas la prière, c'est juste des béquilles, mais bon, on fait comme on est, et puis voilà. Ça peut être aussi d'avoir son petit recueil de prières qu'on aime bien. Avoir des choses qui nous aident. Hein, ça peut être des choses très variées, d'avoir un chapelet dans sa poche, ou une médaille, ou qu'on embrasse en la mettant autour du cou. On a besoin de signes comme ça. Après, où certains prennent, certains aussi, mais maintenant sur les téléphones, on peut recevoir l'évangile au quotidien ou je sais pas, beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est des petits moyens très très concrets. Là, il y a la retraite dans la ville là, en ce moment sur Internet. Il faut prendre. Certains aiment beaucoup le chant. Alors puis. J'ai une lutte avec un des frères de la communauté. Moi, j'aime bien écouter des chants, musique religieuse. Lui, ça l'énerve. Alors, quand on va en voiture, soit on trouve un terrain d'entente, hein, on arrive à voyager ensemble. Bon, on a des sensibilités différentes. Alors, chacun selon ce qu'on est. Mais quelquefois, les chants de Thésée ou tout ça, ça nous aide plutôt que de s'énerver dans les bouchons ou tout ça. Là, ça peut être un lieu aussi où on écoute des enseignements sur un MP3 ou je sais pas. Après, on a des petits moyens techniques qui, encore une fois, ça remplace pas tout. Vous pouvez aussi écouter autre chose, c'est clair. Mais bon, ça peut être des petits moyens qui nous aident à être en présence de Dieu.